France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Clotilde Le Guil.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre ensemble notre voyage au pays de l'inconscient, à travers les rêves et les cauchemars, à travers les expériences d'étrangeté et de perte de l'identité. Je vais aujourd'hui vous parler de l'angoisse et de l'enfance. Je vais vous parler de ces enfants que nous avons tous été avant que d'être adultes, et aussi de cet enfant en nous que nous avons souvent oublié et qui revient à travers l'angoisse. L'angoisse devant un regard énigmatique, l'angoisse devant une voix un peu trop forte, l'angoisse devant un cri, l'angoisse devant une situation nouvelle. Aujourd'hui, je voudrais explorer avec vous l'affect d'angoisse. Cet affect qui peut se manifester à travers les cauchemars qui nous réveillent et qui peut aussi se manifester dans notre existence et nous conduire à avoir le sentiment de perdre nos moyens, nos assises, de ne plus savoir comment avancer, tant nous sommes saisis par une angoisse dont nous ne comprenons pas la cause. Chacun de vous a éprouvé lui-même, ne fût-ce qu'une seule fois dans sa vie, cette sensation, ou plus exactement cet état affectif. Voilà ce que nous dit Freud en 1915. L'angoisse est la chose du monde la mieux partagée. C'est vrai, même si chacun tente de l'oublier, de la fuir, de la nier, l'angoisse est là et nous prend au corps. Elle est souvent partagée au point que l'angoisse de l'autre m'angoisse moi-même, ou que mon angoisse suscite aussi celle de l'autre. Elle est donc la chose la mieux partagée aussi en ce sens. Et pourtant, elle n'est jamais rationnelle. Elle ne donne pas sa cause. Elle nous fait sujets angoissés, mais aussi sujets perdus. Lorsque je suis angoissée, je me sens perdue, comme si je retrouvais quelque chose d'une angoisse infantile. Je me sens aussi perdue qu'un enfant égaré dans les bois. Je vais donc vous parler de l'expérience de l'angoisse, de son rapport à l'enfant en nous. Je vais vous en parler en suivant les indices laissés ici et là par Freud, par Lacan, mais aussi par Hayao Miyazaki, qui, à travers le voyage de Chihiro, nous apprend ce que c'est que l'expérience de se perdre et de ne plus savoir comment se retrouver. Après avoir exploré la région de l'angoisse dans l'enfance, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux qui ont déjà écouté cet épisode en podcast. L'inconscient, avec Clotilde Le Guil, sur France Inter. Alors, avançons ensemble dans cette région de l'angoisse. L'angoisse est cet affect étrange qu'on ne peut pas réduire à de la peur ni à de l'anxiété commune. L'angoisse surgit dans la rencontre avec l'autre, mais en un point mystérieux, en un lieu qui n'est pas définissable. Elle a un caractère vague et indéterminée, qui fait qu'on a même du mal à la repérer et à en parler. Ce qu'on éprouve, c'est que l'angoisse paralyse, c'est que l'angoisse revient aussi, et c'est que l'angoisse est aussi quelque chose de moi. Mais alors, de quoi suis-je angoissée ? Oui, l'angoisse, à la différence peut-être de l'anxiété produite par certaines situations que nous redoutons consciemment. L'angoisse est sans cause décelable. C'est justement ce qui fait qu'elle peut produire des réponses étranges, que nous ne comprenons pas, des actes bizarres. Comme si l'émoi que l'angoisse provoquait en nous nous laissait désemparés. Il se passe quelque chose dans notre corps, mais nous ne savons comment y échapper. Quelque chose comme un sentiment d'irrespirable, un resserrement, presque une asphyxie. Cette angoisse n'a pas toujours de cause décelable, et pourtant on ne peut pas dire qu'elle est angoisse de rien ou devant rien. Avec Freud et avec Lacan, l'angoisse n'est pas tout à fait du même ordre que celle que décrivent les philosophes existentialistes. Elle n'est pas angoisse devant rien, ou angoisse devant le néant, ou angoisse devant la liberté. Avançons avec Freud et Lacan, mais aussi en direction de l'enfance, de cette enfance que nous avons abordée lors de notre dernier épisode sur le jeune Samuel Fabelman. Avançons dans cette direction de l'enfance qui est aussi le moment où, dans l'angoisse, se jouent pour chacun les coordonnées du destin. C'est parce que Freud a rencontré dans sa pratique clinique des patients qui parlaient de leur angoisse qu'il a pu apercevoir que l'angoisse n'était pas angoisse devant rien. Que l'angoisse n'était pas non plus tout à fait de la peur. Mais il a observé aussi que l'angoisse avait un rapport avec la phobie. Il a observé la survenue des phobies très fréquentes chez l'enfant.
Bonne nuit, mon ange.
Bonne nuit, maman.
Dors bien, mon garçon.
L'état d'angoisse chez l'enfant, nous dit Freud, est chose très fréquente. Et d'ailleurs, cet état d'angoisse prend souvent chez les enfants la forme de la phobie. Qui n'a pas eu peur, enfant, de se retrouver seul soudain? Qui n'a pas eu peur, enfant, de l'obscurité? Combien d'enfants ne sont-ils pas angoissés lorsqu'on éteint la lumière avant leur coucher? Les premières phobies de situation qu'on observe chez l'enfant sont celles qui se rapportent à l'obscurité et à la solitude. La première persiste souvent toute la vie durant, et les deux ont en commun l'absence de la personne aimée, dispensatrice de soins, c'est-à-dire de la mère. Pour Freud, c'est l'absence de l'autre qui suscite l'angoisse de l'enfant, mais qui suscite aussi quelque chose d'étrange dans le corps de l'enfant. Alors je vais vous faire part d'un petit échange que Freud livre dans la conférence qu'il consacre à l'angoisse dans ses leçons d'introduction à la psychanalyse. C'est un échange entre un enfant et sa tante au moment du coucher. On peut supposer d'ailleurs que c'est un échange que Freud a surpris alors qu'il était chez lui, entre un de ses enfants et sa tante. Cet échange très simple montre comment l'enfant tente de parler de son angoisse à travers ce qui lui fait peur. Voici ce qu'écrit Freud. Un enfant anxieux de se retrouver dans l'obscurité s'adresse à sa tante qui se trouve dans la pièce voisine. « Tante, parle-moi, j'ai peur. » À quoi cela te servirait-il, puisque tu ne me vois pas ? À quoi l'enfant répond : il fait plus clair lorsque quelqu'un parle. Alors oui, il fait moins noir lorsqu'un autre vous parle, comme si la parole pouvait dissiper aussi un peu de cette peur de l'obscurité qui révèle une angoisse, venue en quelque sorte se loger là, dans le rapport au noir. L'enfant parvient à dire qu'il ne sait pas de quoi il a peur lorsqu'il a peur du noir, mais que la parole d'un autre qu'il aime et le protège le rassure du danger qu'il peut éprouver au moment de fermer les yeux. cette parole lui permettrait de se laisser emporter par le sommeil. Le moment où l'enfant s'endort est aussi ce moment où il demande à être bercé par les paroles de l'autre, jusqu'au bout, jusqu'à sa perte de conscience dans le sommeil, comme pour ne pas éprouver ce moment de solitude où il sera emporté par la nuit. Et qui sait ce qui pourra se passer durant la nuit ? L'obscurité évoque donc la disparition de l'autre et confronte l'enfant à une forme d'angoisse de ne plus être pris par le monde de la parole. Peut-être que dans le silence de la nuit, des créatures surgiront, des fantômes ou des monstres, et qu'ils s'immisceront jusqu'à mon lit pour m'enlever, pour me capturer, pour me faire disparaître. Alors s'il te plaît, parle-moi, même dans le noir, raconte-moi des histoires, et berce-moi même de ces histoires que je connais déjà par cœur, de ces contes que tu me racontes le soir, et toujours le même, parle-moi encore. Il fait plus clair quand tu me parles, et je n'ai plus peur de la nuit, de mes nuits. Comme si ces contes et ces histoires toujours les mêmes étaient aussi un chemin protégé vers le sommeil, vers une nuit habitée de mots et non pas de monstres, habitée d'histoires bien connues et non pas de cauchemars me confrontant à l'inconnu. Maintiens-moi le plus longtemps possible dans ta voix. Au cœur de ta voix, laisse-moi tomber dans ta voix pour oublier que je tombe aussi dans le sommeil. Et attends avant de partir que je dorme vraiment pour que je ne le sache pas. Ne pars pas avant. Qui n'a pas entendu l'enfant demander cette présence, cette proximité jusqu'au moment ultime, celui où il consent à s'abandonner dans les bras de Morphée? Vous avez remarqué que cette angoisse que nous partageons peut quelquefois se loger sur le monde animal et surtout sur ces petites bêtes qui sont si proches et si loin en même temps de nous que sont les insectes, que sont aussi les serpents. L'angoisse engage alors le corps d'une façon concrète. Et dans un cauchemar, dans une fantasmagorie aussi, peut nous être montré l'objet d'angoisse. Pour essayer de nous faire saisir ce qu'est l'angoisse, l'objet devant lequel l'angoisse surgit, comme le dit Lacan, eh bien justement Lacan, dans son séminaire sur l'angoisse, invente une fable. Il va lui aussi se référer à l'insecte, à ce drôle d'insecte qu'accompagne toute une mythologie, la mante religieuse. Lacan propose une fable qui ressemble à un cauchemar. On pourrait être dans un film de David Cronenberg, dans un film de science-fiction, où l'être humain aurait rétréci par rapport à l'insecte le surplombant, ou même dans un film de Miyazaki. La fable de Lacan ressemble à un mauvais rêve, à un rêve dont on pourrait se réveiller en sursaut, à un cauchemar d'enfant qui l'obligerait à se réveiller, à quitter sa chambre et à rejoindre le lit parental. Quelle est alors cette fable de Lacan ? C'est la fable de l'homme qui se retrouverait face à une mante religieuse géante sans savoir ce qu'elle veut de lui, ni ce qu'elle voit de lui. Moi-même, dit Lacan, revêtant le masque animal dont se couvre le sorcier de la grotte dite des trois frères, je m'étais imaginé devant vous en face d'un autre animal, un vrai celui-là, supposé géant pour l'occasion, une mante religieuse. Comme le masque que je portais, je ne savais pas quel il était. Vous imaginez facilement que j'avais quelques raisons de n'être pas rassurée, pour le cas où, par hasard, ce masque n'aurait pas été impropre à entraîner ma partenaire dans quelque erreur sur mon identité. La chose était bien soulignée par ceci, que j'avais ajouté que je ne voyais pas ma propre image dans le miroir énigmatique du globe oculaire de l'insecte. Lacan, dans cette fable, s'imagine ainsi revêtu d'un masque qui le fait apparaître aux yeux de cet insecte géant sous une figure qu'il ignore. Mais que voit la mante religieuse que je ne vois pas? Que suis-je pour elle? Comment le savoir, puisque je ne sais pas ce que représente le masque que je porte? Et si la mante religieuse reconnaissait là son mâle? Et si elle s'approchait pour copuler avec lui et le tuer ensuite? Cette fable sur la mante religieuse montre que l'angoisse, pour Lacan, surgit face à une présence, la présence d'un autre étrange. Ici, un insecte géant dont je ne sais pas ce qu'il me veut. Que me veut-il ? C'est la question qui traverse le corps du sujet angoissé. Que va-t-il faire de moi ? Jusqu'où va-t-il s'avancer, s'immiscer, s'imposer en moi ? L'angoisse, c'est cela. C'est l'angoisse devant cette chose dont je ne sais pas ce qu'elle me veut. C'est quelque chose qui a à voir avec le rapport à l'autre, mais en même temps, c'est aussi ce que je ne vois pas dans ce qui se produit dans le rapport à l'autre, ce qui ne se laisse pas deviner, interpréter, ce qui n'est pas lisible dans les intentions de l'autre et qui provoque en moi un sentiment d'angoisse en mon corps.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Alors, avançons encore un peu dans cette zone obscure de l'angoisse, en séjournant ensemble dans la région de l'enfance. Vous connaissez sûrement cette petite fille qui porte un short rouge et un t-shirt blanc et vert et qui est assise à l'arrière de la voiture de ses parents.
Chiro, on est presque arrivé.
Elle s'inquiète de devoir quitter son école et de déménager.
On sera très bien ici, tu verras. Regarde, voilà l'école primaire. Tu ne veux pas voir ta nouvelle école, Chiro ?
Regarde comme elle est jolie et moderne.
Elle s'appelle Chihiro. Son voyage, que nous conte le cinéaste japonais Hayao Miyazaki, nous initie à l'angoisse et même au cauchemar, en nous parlant métaphoriquement de ce moment où l'enfance déjà s'éloigne, où une métamorphose de l'être s'annonce, qui semble en même temps tellement inconnue, nouvelle et quelquefois même effrayante, que l'angoisse est aussi au rendez-vous. Oui, le voyage de Chihiro, c'est un voyage étrange qui conduit une petite fille à changer de monde, à traverser le miroir, un peu comme la petite Alice de Lewis Carroll, et à se retrouver dans le monde des esprits et des fantômes. Elle ne sait plus vraiment si elle existe face à l'autre ou si elle ne fait que rêver qu'elle n'existe plus. Le titre original du film est « La mystérieuse disparition de Sen Chihiro ». Il est donc question de disparition et aussi d'apparition à nouveau. Mais aux yeux de qui Chihiro disparaît-elle ? Aux yeux de ses parents ? N'est-ce pas aussi à ses propres yeux qu'elle disparaît en même temps que ses parents se sont rendus méconnaissables ? Mais revenons en arrière. Qu'est-il arrivé à Chihiro ? Pourquoi se retrouve-t-elle seule dans ce parc d'attractions empli d'esprits et de créatures étranges, vivant dans un grand pavillon des bains, travaillant au service de la vieille Yubaba et de son bébé géant ? Chihiro a vécu une expérience très étrange. Un peu de celle aussi qu'une enfant peut faire au moment de s'endormir et de tomber dans le sommeil. Elle était pourtant bien là avec ses parents dans la voiture qui les conduisait vers la nouvelle école et sa nouvelle demeure. Et puis elle était bien là lorsqu'ils ont traversé le tunnel. Et puis elle était bien là dans le parc d'attractions vide, presque désert. Elle était là avec papa et maman à errer de stand en stand dans ce lieu étrange. Mais voilà que ses parents se sont attablés, pris d'une avidité sans limite, face à un grand buffet de mets, de saucisses fumantes, de montagnes de choucroute, de pain en abondance, d'immenses pots de moutarde, et en voici et en voilà, et qu'ils ont commencé à manger. Non, à avaler, à se baffrer, à se goinfrer. Chihiro s'est éloignée un instant, et lorsqu'elle revient auprès de ses parents, qu'elle découvre de dos, que voit-elle ? Plus de parents, mais des gros porcs.
Papa, maman, c'est moi ! Papa, au secours !
D'immondes cochons gras et obèses qui tombent de leurs tabourets tant ils sont lourds, grognants et éructants. Comme dans un cauchemar, Chihiro se retrouve seule face à cette métamorphose de ses parents, n'en croyant pas ses yeux.
C'est pas vrai. Je rêve. Réveille-toi.
La petite fille aimerait se réveiller et revenir dans le monde d'avant. Elle ne peut pas croire que ses parents ont disparu et se sont métamorphosés en cochons, comme sous le coup d'une atroce malédiction.
Ça peut pas être vrai. Rien n'est vrai. C'est pas possible. Je suis pas là. Je peux pas être là.
Mais pourtant, cela a l'air d'être horriblement vrai. Elle s'éloigne, angoissée, affolée. Chihiro marche seule en s'enfonçant dans le parc d'attractions. L'histoire de la petite Chihiro, c'est l'histoire d'une fille qui croit qu'elle fait un mauvais rêve, mais qui ne parvient pas à se réveiller. C'est l'histoire d'une petite fille qui rencontre l'angoisse. L'angoisse de ne plus pouvoir retrouver ses parents tels qu'ils étaient, tels qu'elle les a connus. L'angoisse de les voir transformés en animaux et de surcroît en gros porcs. Cela la confronte à une angoisse radicale. Chihiro est seule. Plus personne ne peut l'entendre ni lui répondre. Et pourtant, il faut y aller. Il faut s'avancer dans ce monde étrange. Elle n'a plus d'autre choix. Alors, Chihiro va consentir à s'aventurer dans le parc désert, à la nuit tombée, comme à la recherche d'un autre qui pourrait l'aider à retrouver le chemin vers le monde, comme à la recherche d'un autre qui pourrait lui parler et faire qu'il fasse un peu moins noir, un peu plus clair.
Je disparais ! C'est pas vrai, c'est pas possible !
Le moment d'angoisse se réalise lorsqu'elle s'apprête à pénétrer dans ce monde mystérieux et qu'elle s'aperçoit qu'elle s'efface. Son image disparaît, comme si elle allait ne plus exister, comme si quelqu'un venait la gommer, la rendre invisible, la rayer du monde. Non, ce n'est pas possible. Chihiro pleure. Elle éclate en sanglots car elle se voit disparaître et elle se sent sans recours. Mais à coup, le petit garçon qu'elle vient de rencontrer va la prendre par la main et la conduire dans ce nouveau monde, en commençant par lui délivrer un remède contre la disparition.
Ne crains rien, je suis avec toi, n'aie pas peur.
Non, laisse-moi.
Ouvre la bouche et avale ça, vite. Il faut que tu manges un produit de ce monde ou tu disparaîtras toi aussi.
Non !
L'angoisse n'a-t-elle pas à voir avec ce sentiment de disparaître devant l'autre, de ne plus parvenir à se tenir là, à répondre, à être un sujet qui peut dire quelque chose ? L'angoisse, c'est aussi ce qui produit cet évanouissement du sujet. Un fading, disait Lacan. Un effacement, comme l'effacement des traits du corps de la petite Chihiro. Mais que va-t-il lui arriver? Elle va pénétrer dans cet autre monde et s'affronter à ses peurs. Elle va franchir l'angoisse. Elle va accepter de ne plus se retourner, de ne plus retrouver ses parents. Chihiro va explorer un chemin qui va lui permettre de ne pas céder à son angoisse. Elle va même perdre son nom, alors que la sorcière Yubaba lui fait signer son contrat de travail en la rebaptisant Sen.
Tu as signé ?
Oui. Oh.
Tu t'appelles Chihiro ?
Oui.
C'est beaucoup trop long pour une aussi petite fille. Désormais, tu t'appelleras seulement Sen. Est-ce que tu as compris?
Et Chihiro, devenu Sen, se confronte à cette perte, celle de son identité. Sen merveilleusement poétique, où les lettres de son nom, sous l'effet de la voix autoritaire de la sorcière Yubaba, s'envolent dans les airs, la laissant amputée de son être, amputée de sa signature. Bouche cousue, voilà l'effet produit par l'angoisse. Bouche cousue et expérience de ne plus être là comme sujet, mais sentiment d'être emprisonné dans son corps. Chihiro se retrouve sans nom, ou amputée de son nom véritable. Mais pourtant, elle va avancer dans ce monde étrange du pavillon des bains. Elle va même travailler dur à nettoyer les bains, à frotter les esprits putrides, à activer les arrivées de savon et de seau d'eau. Elle va faire ses 12 travaux, un peu comme Héraclès nettoyant les sales écuries d'Augias. Miyazaki, en une scène poétique à nouveau, va nous initier au mystère de l'étrange disparition de Chihiro. C'est en parvenant à retrouver un autre nom perdu que la petite fille pourra aussi se retrouver elle-même et revenir de son étrange voyage. Mais pas toute seule. Miyazaki nous montre que c'est ici la rencontre et l'amour qui sauve de l'angoisse. Haku, devenu dragon volant, a lui-même perdu quelques lettres de son nom et ne sait plus qui il est. C'est en survolant la rivière sur son dos que soudain, comme en un éclair, Chihiro se souvient. Oui, enfin, elle se souvient de ce qu'elle a perdu.
Haku, écoute-moi. Ce que je vais te dire, je m'en souviens pas vraiment moi-même, mais je sais que ma maman me l'a raconté. Quand j'étais toute petite, je suis tombée dans une rivière. Le temps a passé, ils l'ont remblayée, ils ont mis des immeubles dessus. Mais il y a une chose dont je me souviens. Ça vient de me revenir. Cette rivière, c'était là. La rivière Kohaku. Ton vrai nom, c'est Kohaku, comme la rivière.
Ses parents ont donc manqué de la paix. Elle a, l'espace d'un instant, été un enfant perdu au sens propre, un enfant disparu. Voilà que soudain, ce récit sur son enfant, sur ce moment où elle a failli se noyer, fait remonter le nom de la rivière où elle était tombée. Kohaku. Kohaku. Voilà le nom perdu de Haku. En prononçant les lettres qui manquaient au nom d'Haku, le serpent dragon se métamorphose à nouveau en jeune homme et Kohaku peut lui dire enfin qu'il se souvient lui aussi de ce moment où il était la rivière et où la petite fille est tombée en lui.
Je te remercie de m'avoir sauvée. Sans toi, mon vrai nom serait devenu un vieux souvenir enfoui au fond de moi.
Je t'ai vraiment sauvée?
Je suis l'esprit de la rivière Kohaku.
L'esprit de la rivière, ça fait penser à un dieu.
Mes souvenirs me reviennent à présent. Comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombé au fond de moi? Tu te penchais pour repêcher ta chaussure.
Oui, et tu m'as emmenée dans tes bras vers le gué pour que je puisse reprendre pied.
Tu étais tombée en moi. Magnifique formule, inventée par Hayao Miyazaki pour dire ce lieu de l'angoisse. Le lieu où un enfant est tombé, comme dans un trou noir, comme disparaissant soudain. Et ce lieu d'où il peut revenir, à condition de pouvoir dire quelque chose de cette angoisse, à condition de pouvoir rencontrer aussi un autre qui le guide dans cette recherche de son nom, dans cette quête de son nom perdu. Sen retrouve Chihiro, Aku retrouve Kohaku. Et Chihiro, maintenant qu'elle a retrouvé ce souvenir qui s'était noyé dans le temps, peut avancer et retrouver ses parents autrement, en sachant que son désir de savoir, son désir de travailler, son désir d'avancer dans le déchiffrement du mystère de la disparition lui a permis de se rencontrer elle-même. Ce parcours qu'elle a fait, toute seule, mais aussi avec Aku, Chihiro ne l'oubliera jamais. Un peu comme si elle avait franchi le point d'angoisse, celui que l'on franchit dans une analyse, celui dont Lacan nous dit qu'il permet d'accéder au désir. Chihiro peut avancer maintenant dans la vie sans plus avoir peur de son désir. Ici s'achève ce 7e épisode sur le rêve, l'angoisse et l'enfance.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient avec Clotilde Le Guil.
Restez à l'écoute, dans un instant, je répondrai à vos questions. Mais avant cela, nous écoutons La rivière de Pomme.
Tu apprendras. sur ton front de la poussière.
C'est à vous, je vous écoute.
Bonjour, j'ai accumulé beaucoup de bazar dans ma maison. C'est énormément encombré. Je voudrais arriver à la débarrasser. Il faudrait certainement jeter beaucoup de choses pas nécessaires à ma vie quotidienne puisque je ne m'en sers pas. Mais je n'y arrive pas. L'angoisse m'en sert quand je veux essayer de ranger. Il me semble impossible de jeter. Je pense que c'est lié à un lien d'attachement rompu avec ma mère quand j'étais très jeune.
Merci Christine pour votre témoignage. Seul vous, en effet, pouvez savoir ou explorer, en parlant à quelqu'un, la dimension de cette angoisse, cette dimension intime pour vous. Mais je reprendrai sur ce dont vous faites part, de cette angoisse qui surgit devant l'encombrement. Hein, le fait qu'il y ait un trop. Hein, ici, un trop d'objets, hein, un encombrement d'objets. Et la question que je pourrais poser finalement à partir de la vôtre, c'est au fond, quels sont ces objets qui nous encombrent, hein, et dont justement nous n'arrivons pas à nous séparer. Hein, ce qui est paradoxal, c'est que ce qui nous encombre en même temps, ce sont des objets dont on ne se sert plus. Hein, donc, on peut se demander à quoi ils nous servent et pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à s'en séparer. Donc, on voit qu'il ne s'agit pas ici simplement d'un registre, disons, de l'objet en tant qu'il aurait une fonction et une utilité. Hein. Il s'agit de l'objet, on pourrait dire, en tant qu'il vient, d'une certaine façon, boucher un trou, combler un vide, hein, occuper un manque. Et donc, cette réflexion sur l'encombrement et sur l'objet me conduit à me rapporter à une définition que Lacan donne de l'angoisse dans son séminaire sur l'angoisse, qui est une définition qui renverse totalement la définition classique existentialiste de l'angoisse. Lacan nous dit que l'angoisse, ce n'est pas l'expérience du manque, mais c'est le manque du manque. Je suis angoissée lorsque le manque vient à manquer. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que justement, je suis angoissée lorsqu'il n'y a plus de place pour le manque. Hein. Parce qu'au fond, le manque, eh bien, est constitutif du désir. Il faut faire l'expérience du manque pour pouvoir désirer quelque chose, pour pouvoir réaliser quelque chose depuis son désir. Et donc, ce que nous apporte Lacan, c'est que c'est cette idée qu'il y a du trop. Et lorsqu'il y a du trop, hein, sous la forme de l'encombrement des objets, mais aussi du trop par rapport à ces objets qu'on n'arrive pas bien à définir et qui sont des objets que Lacan appelait aussi les objets petit a, lorsqu'il y a du trop, eh bien, d'une certaine façon, le corps, hein, signale qu'il y a du trop en faisant éprouver cette angoisse. C'est-à-dire que, finalement, ce qui me manque, c'est un manque, hein, pour avoir un espace de respiration. Hein. Le souffle du désir suppose, finalement, de faire l'expérience du manque.
Bonjour, je m'appelle Fleur, j'ai 11 ans. J'ai écouté une émission sur Miyazaki et je voulais poser une question. Quand les parents de Chihiro se transforment en cochon, est-ce que on peut dire qu'il y a de la bonne angoisse puisqu'elle cherche à sauver ses parents et à se sauver elle-même ? Merci beaucoup.
Fleur, c'est moi qui te remercie pour cette question, qui est une question très bien formulée et qui montre que ce film de Miyazaki, Le Voyage de Chihiro,
t'as touché et au fond déjà que tu en donnes une interprétation, parce que ta question est déjà une interprétation du film. Alors tu te demandes si il existe une bonne angoisse. C'est une question qui est très intéressante parce que c'est une question qui renvoie à ce que le fondateur de la psychanalyse, Freud, a pu dire sur l'angoisse. Justement, Freud considère que l'angoisse a valeur de signal d'un danger. Donc l'angoisse a une utilité. Elle n'est pas mauvaise en elle-même, elle a une utilité parce que justement, elle signale à celui qui l'éprouve qu'il est en proie à un danger. Néanmoins, ce danger n'est pas clairement identifiable. C'est pour ça qu'on parle d'angoisse et pas seulement de peur. Quand on a peur, on sait devant quoi on a peur. On a peur devant un phénomène qui se produit dans le monde. L'angoisse est un affect qui est plus mystérieux. Et effectivement, ce qui se produit là pour cette petite fille, pour le personnage de Miyazaki, c'est quelque chose qui est à la fois de l'ordre de l'angoisse et de l'ordre de la peur. Je reviens sur cette notion de bonne angoisse. Freud distingue aussi le phénomène de l'angoisse de ce qu'il appelle le traumatisme. Et justement, ce qu'il montre, c'est que lorsqu'il y a traumatisme, d'une certaine façon, l'angoisse n'a même pas eu le temps de se produire. L'enfant, puisqu'ici on parle d'une petite fille, l'enfant n'a même pas eu le temps d'être angoissé. Donc, avec ces deux réponses, à la fois l'utilité de l'angoisse pour signaler un danger et la distinction entre l'angoisse et le trauma, on voit qu'en effet, il y a une bonne angoisse, que l'angoisse sert à quelque chose, que l'angoisse a valeur d'avertissement. Alors, ensuite, tu te demandes si cette angoisse qu'éprouve Chihiro, finalement, n'a pas une utilité puisqu'elle lui permet à cette petite fille de saisir qu'il va falloir qu'elle se sauve et en même temps qu'en se sauvant, elle va pouvoir sauver ses parents, délivrer ses parents d'un maléfice. Et c'est là où déjà tu proposes ce qu'en psychanalyse on appelle une interprétation. C'est-à-dire que tu te demandes ce que veut dire ce film qui est extrêmement métaphorique et que tu l'interprètes ainsi comme un effort fait par cette petite fille confrontée à cette angoisse pour trouver le moyen de se sauver et de sauver ses parents. Dans le film de Miyazaki, ce qui est très intéressant, c'est que on voit que pour se sauver elle-même, il va falloir qu'elle découvre en quelque sorte les lois d'un monde étrange, les lois d'un monde dont, en quelque sorte, elle n'a pas le mode d'emploi. Il va falloir qu'elle découvre comment se repérer dans ce monde qui est le monde des esprits, le monde dirigé par la sorcière Yubaba, et qu'elle déchiffre, au fond, quelque chose de ce monde. Alors, comment parvient-elle à se sauver et à sauver ses parents ? Miyazaki nous montre que elle parvient à se sauver d'abord en consentant à s'aventurer dans ce monde dont elle ne connaît pas les règles, dont elle ne connaît pas les codes. Elle va pouvoir se sauver en consentant à travailler, c'est-à-dire en donnant quelque chose d'elle-même, sans savoir nécessairement où cela va la mener. Et le point le plus important, c'est qu'elle va se sauver en s'affrontant à celle qui, vraiment, est à l'origine des règles de ce monde, qui est la sorcière Yubaba. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette scène où elle signe son contrat de travail et où elle s'affronte à cette voix terrible, à cette voix autoritaire de la sorcière qui a le pouvoir, si tu te souviens de cette scène, qui a le pouvoir de la priver de certaines lettres de son nom. Et qui fait qu'elle sera amputée de certaines lettres de son nom et qu'elle aura perdu quelque chose de son identité. Et au fond, c'est ce moment où elle s'affronte à cette voix angoissante, autoritaire, où elle ne cède pas devant cette voix. C'est ce moment-là qui montre vraiment le point tournant où elle va pouvoir elle-même, en tant que sujet, eh bien, réaliser quelque chose dans ce monde afin de pouvoir, à la fin, sauver ses parents, c'est-à-dire sauver ses parents du maléfice qui vient de Yubaba. Donc, dans ta lecture du film, eh bien, ce que tu apportes, ce que je n'avais pas dit, finalement, que je n'avais pas forcément vu comme ça, mais que tu apportes depuis ton point de vue de petite fille de 11 ans, c'est qu'au fond, un enfant peut aussi faire quelque chose pour sauver ses parents.
L'inconscient avec Clotilde Le Guil sur France Inter.
Poursuivons avec vos questions.
Bonjour Clotilde Le Guil et merci pour ce très beau voyage au pays de Chihiro. Vous parlez du point d'angoisse, celui que l'on franchit dans une analyse. Vous en parliez déjà dans un précédent podcast, vous disiez que pour rejoindre le désir, il fallait franchir l'angoisse. Serait-il possible que vous nous en disiez un peu plus sur ce fameux point d'angoisse que l'on traverse dans une cure ? Merci.
Merci Marie-Chloé pour cette question qui est précise et précieuse. Effectivement, ce terme de point d'angoisse, c'est un terme qui est proposé par Lacan pour essayer de nous faire saisir que l'angoisse ne surgit pas n'importe où. Elle surgit en un lieu précis, en un point précis, qu'une psychanalyse permet de repérer. Repérer le point où surgit l'angoisse, pour moi, c'est déjà au fond, cerné quelque chose de fondamental. Parce qu'au fond, lorsque j'éprouve l'angoisse, eh bien, cette angoisse m'envahit, cette angoisse peut même produire des conduites où je me mets en danger, des conduites, par exemple, que Lacan appelait, après Freud, d'acting out, où je vais agir, montrer quelque chose à l'autre sans même comprendre moi-même ce que je fais, des conduites où je cède à l'angoisse, voire même des conduites de passage à l'acte, où le sujet rompt en quelque sorte avec le monde de l'autre. Donc, repérer le point d'angoisse, c'est déjà cerner finalement ce point où je me sens en danger et où quelque chose au fond de la pulsion peut venir se déchaîner, peut venir répondre à cette angoisse. Alors, il y a une phrase que j'ai envie de prononcer là en écoutant votre question, qui est une phrase de Lacan qui a beaucoup compté pour moi et que j'aime beaucoup, qui est très simple, que Lacan dit dans son séminaire 8 sur le transfert. Il dit « Le désir est un remède à l'angoisse ». Vous voyez que voilà le remède que propose Lacan à l'angoisse, c'est un remède tout à fait singulier, qui est de l'ordre du désir, comme si le désir était le seul point d'appui dont le sujet pouvait disposer pour remédier à l'angoisse. Alors, qu'est-ce que veut dire Lacan par là ? Eh bien, c'est que, d'une certaine façon, il n'est pas aisé pour le sujet d'avoir un rapport à son désir. Le sujet a tendance à se méfier de son propre désir et à s'angoisser devant son désir sans savoir qu'il s'angoisse devant son désir. Et donc céder à l'angoisse d'une certaine façon, c'est bien souvent sacrifier son désir, trahir son désir, laisser tomber son désir. Et Lacan nous a proposé une phrase aussi pour penser l'éthique de la psychanalyse dans le rapport au désir, qui est que la seule chose dont le sujet peut se sentir coupable dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. C'est ce qu'il dit à la fin du séminaire 7 sur l'éthique de la psychanalyse. Eh bien, céder sur son désir, qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie, d'une certaine façon, céder à l'angoisse, hein, et laisser tomber son désir, c'est-à-dire ne pas prendre son désir au sérieux, ne pas être prêt à payer le prix qu'il faut pour accéder à son désir. Donc, d'un côté, on pourrait dire que céder à l'angoisse, c'est toujours finalement renoncer aussi à quelque chose de son désir, céder à l'angoisse devant le surmoi, devant le surmoi qui toujours nous invite à sacrifier notre désir et à privilégier soit le devoir, soit la pulsion. Et on pourrait dire aussi que finalement, seul le désir, hein, lorsqu'on parvient à l'assumer, eh bien permet de remédier à l'angoisse, c'est-à-dire à un moment de ne plus finalement se laisser en quelque sorte submerger par son angoisse.
Bonjour, je m'appelle Achille, j'ai 8 ans et demi. Avant j'avais peur du noir, maintenant je n'ai plus peur du noir. Je voudrais une explication. Merci Clotilde.
Merci Achille pour ce témoignage. C'est très précieux ce que tu dis. Donc tu as 8 ans et demi et tu dis « Avant, j'avais peur du noir. Maintenant, je n'ai plus peur du noir. » Donc déjà, ce que tu dis, c'est qu'il y a un avant et un après pour toi. Hein? Tu as eu peur dans l'obscurité, comme cet enfant dont parle Freud dans sa conférence sur l'angoisse, cet enfant qui demande à sa tante de lui parler dans le noir parce qu'il fait moins noir quand il entend sa voix. Et bien, comme cet enfant, tu as eu peur dans l'obscurité, peur de cette solitude à laquelle l'obscurité nous confronte, et tu dis « maintenant, je n'ai plus peur ». Et là, ce qui est très important, c'est qu'il y a quelque chose, donc d'un avant et un après, quelque chose qui est irréversible. Tu as franchi quelque chose de ton angoisse qui fait que maintenant, tu n'as plus peur du noir. Alors, pourquoi tu n'as plus peur du noir? Seul toi, tu peux le savoir, hein, peut-être en te demandant ce qui s'est passé pour toi. Peut-être que tu as grandi, et que la façon dont tu as grandi a fait que tu as pu, d'une certaine façon, te sentir presque rassuré au moment de te coucher, au moment de devoir te séparer du monde de tes parents, de te séparer de la voix des autres, et que d'une certaine façon, tu es suffisamment apaisé, hein, pour pouvoir te laisser emporter dans les bras de Morphée sans éprouver de la peur. Mais ce qui serait peut-être formidable pour toi, c'est que tu réfléchisses à ce qui te faisait peur et à ce qui maintenant ne te fait plus peur. En tout cas, c'est une bonne nouvelle.
Merci pour vos questions et merci à Julien Michel à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Anaïs Reinhardt à la réalisation. Je vous souhaite un bel été et que l'été soit pour vous le moment de vous laisser emporter par les rêves.